Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Pour ce 69e épisode, j'ai échangé avec Agnès Putou, éducatrice et formatrice Montessori. Elle a partagé ses débuts dans la pédagogie Montessori, puis son quotidien de formatrice. Je lui ai posé plusieurs questions concrètes sur les difficultés que peuvent avoir les enseignants à mettre en place cette pédagogie au sein de l'éducation nationale. Comme par exemple les présentations individuelles avec un gros groupe classe, ou le débat sur les syllabes, les sons, les syllabes dans les programmes, ou encore le fait de se sentir seul. À travers le partage de son expérience, on sent cette passion qui l'anime et sa mission. Depuis 2003, elle fabrique du matériel de langage et sa boutique en ligne a remplacé son catalogue PDF. Je laisse place à ma conversation avec Agnès. Bonjour Agnès, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Céline.
Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On a longuement échangé par téléphone il y a quelques semaines. Et voilà, j'espère que vous allez... Enfin, mon but, c'est que vous puissiez partager plein de trésors avec mes auditeurs. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter ?
Je suis... je suis longue, quand je me mets à me présenter, ça peut...
Allez-y.
Ça peut passer une heure.
Non, un petit peu moins.
J'étais en stage, je prenais trop de temps.
Allez-y.
À cet exercice de me présenter. Succinctement, donc, je suis éducatrice Montessori. J'ai été formée, c'est très historique, donc j'ai commencé à me former en 2000 avec Jacqueline Lefrançois, qui était une institutrice du public, qui a eu un électrochoc en visitant la première école Montessori de France, qui était à Rennes, l'école de M. Lanternier, et qui a eu véritablement un électrochoc conceptuel, on va dire, et qui s'est dit, mais c'est absolument ça dont mes élèves ont besoin. Voilà, donc si je ne parle pas trop longtemps de Jacqueline, ce que j'ai tendance à faire souvent, Jacqueline, donc je suis allée me former auprès d'elle. À l'époque, j'étais enseignante à l'université. Et j'ai arrêté à un moment donné l'enseignement à l'université, ce qui m'a permis de m'investir plus fortement dans cette formation Montessori que Jacqueline donnait sur 2 ans à l'époque. J'ai redoublé chez Jacqueline. Donc j'ai fait 2 fois 2 ans chez elle. Et donc à partir de 2003, j'allais la voir quasiment tous les 15 jours, en plus du temps de formation. Elle n'habitait pas très loin, elle était dans ma région. Et on a eu une collaboration très importante. D'abord, je l'ai criblée de questions, bien entendu. Criblée. Pendant longtemps. C'est de cette époque aussi qu'est née, j'étais en formation avec elle, qu'est née l'idée de commencer à mettre sur informatique du matériel de langage. À l'époque, tout le monde, on voyait bien que c'était un élément important de la proposition montessorienne. Et à l'époque, les montessoriens, ils achetaient 4 albums du Père Castor. Ils découpaient toutes les images, ils les collaient sur des cartons et ils les plastifiaient. Voilà. Donc, le début de la création d'un matériel de langage pour apprendre de façon naturelle la lecture date de cette collaboration avec Jacqueline. Donc, ça a dû démarrer en 2004-2005, je ne me rappelle plus exactement l'année. Et elle a supervisé mon travail pendant un certain temps. Voilà. Et me présenter.
Et suite à cette formation, donc, qui a duré 3-4 ans, suite à cette formation, vous avez commencé à créer du matériel. Et est-ce que vous étiez en classe avec les enfants ?
Alors, j'ai créé une petite école Montessori. À la demande de parents. Enfin, d'abord, j'ai créé quelque chose qui est assez classique maintenant, à savoir des ateliers Montessori. C'était en 2004. Et à la suite de ça, il y a des parents qui sont venus me supplier de créer une structure pour leurs jeunes enfants. Voilà. Donc, j'ai eu une petite structure, une ambiance 3-6 ans, voilà, en plus de remédiation scolaire.
D'accord. Oui, donc et l'école et les ateliers.
En tant que... Pardon.
L'école et les remédiations scolaires, donc pour des enfants scolarisés après l'école ou en dehors de l'école, en fait, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Ouais. Et parallèlement, parce que voilà, comme tout Montessorien, il y a une passion qui naît, quoi. Donc, on est tout feu, tout flamme et on déploie énormément d'énergie. Et je suis allée compléter ma formation, enfin même toute la refaire à la source avec Yvette Ponce-Guercy et Catherine Michalski.
D'accord. Voilà. Donc, vous avez continué de vous former.
En termes de formation, ouais.
Oui, oui. Et cette école, du coup, combien d'années avez-vous passé au sein de cette école ?
J'ai passé 4 ans.
4 ans, d'accord. Et ensuite, après ces 4 années ou en parallèle, vous avez commencé à être formatrice ?
Eh bien, c'est ça le truc, c'est qu'il m'est tombé ça sur la tête, et qui n'était pas du tout prévu, à savoir des soucis de santé pour Jacqueline qui sont arrivés de façon massive et très invalidante, au point même que le cycle de formation de l'année où elle est tombée malade a dû être annulé en catastrophe parce qu'elle ne pouvait pas le donner et rien n'avait encore été organisé. Et c'est à la suite de ça, oui, effectivement, que j'ai commencé à donner des formations aux enseignants. Donc, c'était en 2006, aux enseignants du public.
D'accord.
Et à l'époque, les enseignants étaient fort rares. Il faut être clair que...
En 2006,
Montessori,
oui, j'imagine.
On n'avait pas du tout la même image d'une pédagogie potentiellement moderne et conforme aux neurosciences. Tout ça, ça n'existait pas. Et au contraire, ça, elle avait l'image qui était colportée, notamment par les inspecteurs et par les formateurs. Les formateurs institutionnels à l'IUFM, c'était que c'était une pédagogie désuète, dépassée. Donc, on n'était pas du tout dans la même ambiance... que maintenant.
Oui, oui. Et en 2006, je pense que les médias en parlaient beaucoup moins, c'était beaucoup moins connu.
Ah, mais il n'y avait rien.
Mais oui.
Il n'y avait rien. Les seules personnes qui étaient intéressées, c'était les parents. Donc au départ, ça a été un sacré challenge pour que des enseignants viennent dans mes formations, enfin viennent en formation. C'était vraiment pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Et ce qui a permis de mettre le pied à l'étrier, c'est de la chance, hein, forcément, mais c'est que une de mes stagiaires, je pense que c'était en... Oh, je ne voudrais pas dire des bêtises, parce qu'il y en a une en 2006, c'était une instite, et il y en a une autre en 2008, et qui a eu la possibilité de mettre en place pendant une année dans sa maternelle, et qu'elle avait le triple niveau, et elle en a été complètement bouleversée, transformée, enfin, c'était une expérience extrêmement forte pour elle, et par chance, elle est venue témoigner en stage. Et de voir l'incidence que ça a sur les stagiaires, une instite qui témoigne et qui aussi connaît au plus près à la fois les contraintes institutionnelles et puis les peurs et puis les obstacles mentaux et puis le formatage, il faut être clair, des enseignants. C'était super, ça je pense c'était en 2000. Quelle année c'était ? 2009, 2010, que Bellorène Serrella est venue et qu'elle a eu un fort impact sur les stagiaires parce qu'ils se sont dit Agnès, ce qu'elle dit, c'est de la théorie. C'était un peu comme ça que c'était pris ce que je disais, ce que je transmettais. Et le fait qu'une enseignante, témoigne dans le vivant de ce qui se passait dans sa classe et puis les prises de tête qu'on a au départ en se disant, mais je vais enlever tous les jouets, mais qu'est-ce qu'ils vont faire mes enfants dans la classe si j'enlève la dinette, par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça fait partie des thèmes prise de tête pour les enseignants, où je vais faire une présentation individuelle, mais c'est impossible avec 26 enfants, enfin voilà, les questions récurrentes. Le fait qu'une enseignante très calme dise, mais oui, c'est possible, et oui, mais même au bout de 3 mois, mais les enfants, ils n'avaient même plus envie des jeux, je les ai retirés, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Des choses comme ça, c'est extrêmement rassurant. Mmh. Et je crois que c'est vraiment ça qui a participé au succès des stages et au fait que ben, après, il y a eu des...
Oui, ça a fait boule de neige, quoi, l'effet boule de neige. Les participants ont dû mettre en pratique, vivre le vivre. Et voilà, l'effet boule de neige a eu lieu.
Oui, oui. Puis je pense qu'il y a un aspect un peu sociologique parce que mes stagiaires les plus pertinentes, ou celles, enfin pertinentes, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas les plus engagées dans le processus, et qui y sont encore 10 ans plus tard, elles ont mis en place en 2011. Et 2011, c'est l'année où Céline Alvarez a commencé son expérience à Gennevilliers. Personne ne le savait à l'époque, elle n'était pas médiatisée. Mais il semblerait quand même qu'il y ait une conjonction culturelle, environnementale, qui a fait que c'est devenu un peu plus possible de pratiquer la pédagogie Montessori dans l'enseignement public.
Mmh. Et c'est à partir de 2011 que le nombre de stagiaires a augmenté. C'est ça que vous avez... j'ai bien compris.
Je suis pas allée dans les statistiques, oui. Même les chiffres, je les ai pas faits. J'ai été prise par le succès, par l'emballement, et il y a eu très peu de recul en fait sur. J'ai donné plus de 100 stages, ça veut dire plus de 500 journées, j'ai reçu plus de 700 personnes, enfin, c'était énorme, c'était gigantesque. Mais c'est clair que dans ma mémoire, enfin pas que dans ma mémoire, il y a eu une sacrée promotion en 2011, qui est toujours sur le terrain, qui pratique encore dans sa classe, multiniveau, 3-6 ans, maternelle, et qui est digne, à mon sens, de ce qu'on voit dans les écoles Montessori privées, en termes d'ambiance de classe, de bien-être des enfants et de développement sur tous les plans des enfants, tant sur le plan cognitif que sur le plan social et le plan, je dirais, de l'être, c'est-à-dire de l'épanouissement.
Mais je ne suis pas étonnée que 10 ans après, ces personnes continuent, parce qu'une fois qu'on a découvert la pensée de Maria Montessori, on ne peut plus revenir en arrière, c'est pas possible.
Non, ça c'est très clair, on ne peut pas revenir en arrière, non, une fois que le pas a été fait. Presque le plus dur, c'est de faire le pas.
Oui, 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 il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, et voilà, qui avancent à leur rythme, et c'est
oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est important que l'enseignant se respecte, et que... Cette notion de zone de confort, on dit toujours bon, c'est intéressant d'aller au-delà de sa zone de confort. Donc, c'est le cas quand on rentre en pédagogie Montessori. Et en même temps, il ne faut pas aller dans une zone d'insécurité. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre aller au-delà de ce que je connais, de ce que je maîtrise, de ce qu'on m'a appris, et en même temps, pas aller dans une insécurité qui va mettre à mal l'expérience. Et puis, si on n'est pas bien soi-même, les enfants le ressentent, puis il y a plein de conséquences, quoi.
Oui, j'aime bien cette différence que vous faites entre la zone de confort et l'insécurité. On imagine bien, en fait. Hein. Voilà. On sort de sa zone de confort, mais sans non plus se mettre en danger et être mal et ne plus...
Ouais. Être trop mal parce qu'on a trop perdu le contrôle. Et c'est pas tant perdre le contrôle que perdre ses repères.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est défiant, ouais.
Et les enseignants qui... Oui, allez-y, pardon.
De ce point de vue-là, c'est vrai que l'association publique Montessori, elle a, j'espère, un grand rôle à jouer dans le soutien. Parce que quand on sort de sa zone de confort et de ses repères, eh bien, en fait, on a besoin régulièrement d'être rassuré et puis de savoir si on est dans les cales ou pas dans les cales, ou si on est allé trop loin. Personnellement, je dirais presque, si on est allé trop loin dans le lâcher... Alors que c'est nécessaire, bien sûr, lâcher prise, il n'y a pas de souci, mais il y a besoin d'échanger énormément avec des pairs et de ne pas être isolé.
Et évidemment, c'est 5 jours, 10 jours de formation, c'est juste le point de départ. Après, on va tester, on va mettre plein de choses en place. Donc, on a besoin de pouvoir toujours échanger avec d'autres collègues pour savoir, connaître leurs avis, avoir un retour. On peut pas... C'est difficile d'être seul. Hein.
Ah oui, clairement. Puis ça ne peut pas toujours se passer dans sa propre école.
Oui,
parce que des fois, ça ne marche pas du tout avec les collègues, il faut être clair. Hein. Donc, effectivement, pouvoir se référer à d'autres personnes et puis avoir du temps pour se poser. pour se poser et dire où on en est, aussi bien au niveau de sa classe, de comment ça se passe, et intérieurement.
Moi, je suis déléguée du 21 pour l'association publique Montessori, mais malheureusement, le 21, c'est une zone blanche en France, et avant la Covid, trois personnes m'avaient contactée, on avait fait quelques réunions pour publique Montessori, et bon, après, évidemment, la Covid on s'est arrêté, mais j'ai pas eu de demande depuis. Alors qu'il y a des groupes départementaux en France, ils sont une vingtaine, une trentaine, voire au-delà. Donc voilà, j'espère que dans le 21, les gens vont peut-être en écoutant ce podcast, ils vont venir.
Quelqu'un dynamique comme vous, oh, bah, c'est clair. Oui, c'est étonnant, hein. C'est étonnant.
Et j'avais deux questions en tête. Quand des enseignants ont peur de mettre en place la pédagogie Montessori dans leur classe du public, souvent, j'ai l'impression que la crainte qui revient le plus souvent, c'est « Oui, mais est-ce que je vais respecter les programmes? Quand je vais avoir la visite de mon inspecteur, est-ce que je vais être dans les clous? Est-ce que je vais pas me faire taper sur les doigts ?» Et est-ce que ça, c'est une crainte que vous observiez souvent pendant vos formations? Est-ce que c'était la crainte principale ou est-ce qu'il y en avait d'autres?
Non, forcément, cette crainte, elle est récurrente. Je crois que je l'éliminais assez vite, peut-être trop vite. Bon, ces thèmes classiques là, de correspondance avec les programmes officiels, c'est un travail qui a été fait X fois par X personnes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est publié sur le site de Public Montessori. Marguerite Morin s'y est attelée aussi. Une de mes anciennes stagiaires, elle s'y est attelée, elle a fait ça dans ses livres. C'est un travail qui a été fait. Il n'y a pas besoin d'inventer la poudre pour faire cette correspondance. Les enfants de maternelle 3-6 ans, ils vont au-delà des attendus institutionnels. Quel que soit leur niveau, entre guillemets, ou leur difficulté de départ, de toute façon, dans tous les cas, les enfants vont au-delà des attendus institutionnels. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Enfin, c'est pas ça le... Après, la parole de l'inspecteur, là, c'est un travail personnel. L'inspecteur, il n'a pas de pouvoir sur l'enseignant. Il peut être dévalidant, il peut être dévalorisant dans le pire des cas. En même temps, il est là un jour... éventuellement on n'a pas une très bonne note, mais voilà, ça change pas grand chose. Donc en fait le pouvoir de l'inspecteur il est minime sur notre pratique de classe.
Est-ce que ça serait alors plutôt le regard des collègues qui va être plus quotidien que la visite de l'inspecteur une fois de temps en temps?
Oui, donc par rapport au regard de l'inspecteur, j'aurais tendance à inciter les personnes à se faire coacher ou, je ne sais pas, recevoir de l'écoute empathique ou des marques de soutien ailleurs qu'avec leur inspecteur. Parce que ce n'est pas garanti avec l'inspecteur. Mmh. Les inspecteurs, ils sont très multiples par rapport aux expériences faites en classe. Il y en a qui sont enchantés, puis il y en a d'autres qui vont tout casser. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas pour l'inspecteur qu'on bosse. Ce n'est pas pour l'inspecteur qu'on met tout en cause de notre pratique. Mmh. C'est pour redonner du sens à notre métier. C'est pour... que les enfants soient plus heureux et pour qu'on propose quelque chose de plus adapté aux petits êtres qu'on a en face de nous.
Et alors, voilà. Est-ce que c'est le regard des collègues?
Alors, effectivement, le regard des collègues, là, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, un angle mort. Non, ce n'est pas un angle mort, il y a une faiblesse. Enfin, il y a une faiblesse, ou je ne sais pas comment ça peut s'exprimer. Il y a un point faible. Effectivement, si ça ne se passe pas bien avec les collègues, les choses peuvent devenir compliquées, très compliquées.
Ne serait-ce que pour avoir le multi-âge, ne serait-ce que pour avoir les trois niveaux.
Complètement. Ah oui, complètement. C'est... Là-dessus, oui. Pour moi, le frein, il est plus là. Il est plus là qu'ailleurs. Effectivement. Il est plus là.
Un jour...
Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être plus de capacités diplomatiques que d'autres. Des enseignants, plus. C'est clair qu'il ne faut pas arriver en ayant en tête j'ai reçu la lumière. Oui, on reçoit la lumière en rencontrant Montessori, mais pour les autres, on est trop illuminé, quoi. C'est pas, ça crée du rejet.
Ça me rappelle une expérience vécue.
Ouais. Oui. Vous voulez la partager?
Non, pas sur le podcast, non.
Non.
Mais oui.
Oui. Et je sais qu'il y a Marie Constant qui a écrit un livre, là, et que j'ai formé à La Réunion. Et là, ça a marché du tonnerre de Dieu, sa classe. Et elle vivait des choses tellement extraordinaires dans sa classe. Elle était au paradis, quoi. Ouais. Et quand elle rejoignait ses collègues, qui n'étaient pas du tout là-dedans, mais ils ont fini par lui dire « Mais arrête, on dirait que tu es illuminée, on en a ras-le-bol. Mm. »
Voilà. Ouais. Donc le soutien... Le soutien, il faut aller le chercher ailleurs, en fait. Hein. Le soutien, si on ne l'a pas dans son équipe, dans son école, il faut aller le chercher ailleurs. Avec l'association publique Montessori, par exemple, les groupes départementaux. Et...
Entre autres, oui. Ça peut être aussi en CNV, avec recevoir de l'empathie. En fait, c'est un peu comme quand on entame une démarche personnelle, j'ai l'impression, sur le plan du développement personnel. Souvent, on dit, tu ne vas pas rencontrer de soutien de la part de ta famille. Mmh. L'endroit où on pourrait croire que c'est l'endroit même où on va obtenir du soutien, et quand on fait des démarches un peu trop novatrices et qui risquent de bousculer ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas eux qui vont nous donner du soutien, c'est clair.
Et juste pour, avant d'enchaîner, j'aimerais revenir sur on parlait des difficultés que l'on peut rencontrer quand on veut mettre en place cette pédagogie dans le public. Et un jour, lors d'une formation, j'ai une enseignante qui m'a demandé, qui a soulevé le point précis des programmes par rapport à la syllabe et par rapport au son. Et vous savez, dans les programmes, c'est vraiment bien noté, hein, l'enfant doit être capable de dénombrer le nombre de syllabes dans un mot. Et en Montessori, on ne travaille pas la syllabe. Donc concrètement, que répondiez-vous à vos stagiaires quand ils vous posaient cette question? Est-ce que je le fais juste pour répondre au programme ou alors je coche que c'est fait et alors qu'on ne l'a pas fait? C'est ça. Vous hochez la tête pour les auditeurs qui ne vous voient pas.
Voilà.
C'était ça votre réponse?
Ouais, c'est plus de m'étendre là et voir. Peut-être on en a parlé au téléphone, je ne me rappelle plus. Une préparation 3 mois avant qu'il passe au CP, voilà, ça fait partie du genre de préparation qu'on va faire pour que l'enfant intègre le mieux possible un CP plus traditionnel. Mais on ne va pas l'encombrer avec des demandes institutionnelles qui n'ont pas de sens et qui vont détourner son attention de l'essentiel, à savoir qu'un mot n'est pas composé de syllabes, il est d'abord composé de phonèmes. L'unité sonore minimale, la plus petite, c'est le phonème, ce n'est pas la syllabe.
Oui, donc en gros, vous conseillez à vos stagiaires de ne pas perturber les enfants avec les syllabes, mais quelques mois avant de passer au CP, allez, on le fait, comme ça, ils ont entendu parler, ils savent ce que c'est, et il n'y a pas de souci. D'accord.
Oui.
D'accord. Oui. Et moi j'ai beaucoup de soucis là, avec les grandes sections dont je m'occupe une journée par semaine. C'est avec le nom des lettres. L'enseignante des 3 autres jours passe beaucoup de temps sur le nom des lettres. Et alors, j'ai trouvé assez intuitivement une solution pour leur dire, leur faire comprendre que c'est le son des lettres qui compte et pas le nom. Mais sans dévaloriser le travail de ma collègue, je peux pas leur dire « Non, l'autre maîtresse vous dit le nom de lettre, c'est le son qui compte. » Alors, du coup, j'essaie de leur faire prendre conscience. Je dis « pareil, Tom, quand ta maman t'appelle, elle dit pas « Tom, viens mettre la... » Elle dit pas « T-O-M, V-I-E-N-T, mettre la table. » Enfin, j'appelle tout. Elle dit « Tom, viens mettre la table. » Et j'insiste sur les sons. Mais voilà, pour leur faire prendre conscience que quand on parle, on ne dit pas le nom des lettres comme ça, les unes à la suite des autres.
Il y a un jeu qui marche bien, enfin de ce que disent deux enseignantes que j'ai formées, Marianne et Marguerite. Elles ont mis en place un petit jeu. Alors, je ne sais pas trop à quel moment elles le font, puis je pense que... Au cours de leurs années, elles varient leur dispositif, donc il faut être clair, je ne sais pas si c'est le matin en entrant dans la classe ou si c'est à la fin de la matinée, peu importe. En tout cas, c'est dans un moment où les enfants sont ensemble, où on est regroupés ensemble. Et ça s'apparente aussi à un jeu Montessori qui est en lien avec le silence. Enfin bon, bref. Et elles appellent les enfants et elles égrènent les phonèmes de leur prénom. Et une fois qu'elle a égrené les phonèmes qui constituent le prénom Philomène, par exemple, elles vont dire tout doucement F-I-L-O-M-E-N. Philomène peut se lever et aller soit, parce que c'est l'heure des mamans, soit partir faire une activité. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un jeu dont elles m'ont témoigné qui fonctionne hyper bien et où là, l'enfant, bah, il voit qu'effectivement, les mots sont composés de phonèmes et non pas de les syllabes. Bah, c'est un regroupement de phonèmes, mais...
Mmh. Et c'est intéressant.
Bon, et c'est une pratique qu'elles font quotidiennement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans les usages de la classe.
J'ai mal choisi mon exemple en disant « Tom, viens mettre la table ». En général, je dis « Tom, à table ». Et comme ça me permet, la phrase est plus courte et ça me permet de dire le nom de chaque lettre. Tout à l'heure, vous avez dit, j'aimerais vous revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux présentations individuelles. Quand une enseignante panique et se dit « je ne peux pas faire de présentation individuelle, j'ai 26, 28 élèves dans ma classe », quelle est votre réponse ?
Ma réponse, c'est celle que fait Marguerite Morin, que j'ai entendu parler parce que j'ai appris comme ça, incidemment et après coup, qu'au début, bien sûr, elle ne m'a pas cru et qu'elle s'est dit « non, mais c'est impossible ce que dit Agnès ». Et elle a commencé à faire des présentations à 6 élèves autour d'une table hexagonale, les tables classiques de maternelle. Et elle s'est rendue compte, ce qui est complètement normal et compréhensible, qu'en fait, le seul enfant qui retenait à peu près la présentation, c'était celui à qui elle faisait la présentation, c'est-à-dire celui qui était à côté d'elle. Et que les autres, ben, ils assistaient un peu en spectateur, obligé, donc il y avait la notion de travail imposé quelque part, et qu'en fait, elle était obligée de refaire la présentation, de toute façon. Donc non seulement les 5 autres qui assistent de façon obligatoire, c'est-à-dire ça ne vient pas de leur motivation intrinsèque, ça vient parce qu'on leur a dit de venir, de toute façon, c'est à refaire. Parce que quelque part, ça c'est Jacqueline, elle disait, quand on fait une présentation à un enfant, vraiment c'est comme si on lui léguait un petit trésor. C'est vraiment de l'ordre du legs. Et pour qu'il se sente concerné, il faut que ça s'adresse à sa personne. Et ça fait partie des éléments importants de la présentation. La présentation, c'est de la technique, c'est des gestes très épurés, lents, etc. Un nombre mesuré de paroles. Bon, il y a tout cet aspect-là des choses. Mais c'est d'abord, avant tout, avant la technique, c'est d'abord une mise en lien avec l'enfant. C'est une mise en lien avec un être. Je faisais pareil quand j'étais en stage avec la stagiaire qui était à côté de moi. Je dis là parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y a eu quelques hommes quand même avec nous, heureusement. Donc, comment il s'appelle ? Bon, il est au CA maintenant de public Montessori. Bon, bref. Et la présentation, c'est d'abord se mettre en lien avec la personne et l'enfant et vérifier son taux de disponibilité. Et puis, en fait, établir un lien. Donc, qui est souvent d'abord par l'échange verbal. Et dans le non-verbal, nous, on ressent son état d'être. On ressent, et notamment son état de disponibilité, sa motivation, son taux de motivation. Est-ce qu'il est là parce qu'on lui a dit « Allez, viens, je vais te faire une présentation ?» Ou est-ce parce qu'il kiffe complètement, il est impatient de recevoir ? Voilà, le taux de disponibilité à recevoir. Parce qu'une présentation, c'est vraiment recevoir quelque chose. Ouais.
Mmh. Et la crainte
et pour des... recevoir, il faut être en capacité de recevoir.
Oui, mais la crainte des enseignants, c'est de perdre, à mon avis, un peu la maîtrise du groupe en travaillant avec un seul enfant à la fois. C'est ça, en fait, qui leur fait peur.
Oui, mais c'est le prix à payer pour être en relation, en fait, avec chaque enfant. Mmh. Et en relation, finalement, extrêmement nourrissante pour les deux, pour l'enfant comme pour l'enseignant. J'ai des enseignants qui m'ont dit, avant de passer en Montessori, j'avais affaire à un troupeau de lapins. Affaire à une masse de lapins. C'est-à-dire que le groupe classe devient une véritable entité et on perd de vue complètement l'individualité. À un moment tellement propice, tellement crucial, le 3-6 ans, où il se passe tellement de choses en termes développementaux pour l'enfant, on perd ça. et on est face à un groupe qu'on gère comme on peut. Donc effectivement, là-dessus, je dirais perdre le contrôle sur ce qui se passe sur le groupe classe, je crois que c'est le prix à payer pour développer, pour trouver une relation
j'ai même de, pas qualité, de qualité, mais c'était peut-être pas exactement ça que vous vouliez dire.
Oui, il y a l'aspect qualité et il y a l'aspect aussi pertinence pédagogique, oui. Finalement.
D'efficacité, que... c'est pas un, très beau, un mot très joli, mais d'efficacité quand même derrière.
Voilà, si on veut.
C'est pas très beau.
Si on veut efficacité, oui. Oui, finalement, l'efficacité, elle passe par le lien.
Ouais. Oui.
Et par la perception de d'où en est l'enfant, ouais. Sur tous les plans, hein, que ce soit cognitif, émotionnel, physique, même un enfant trop fatigué, il n'est pas en capacité de recevoir une présentation.
Oui. Oui, c'est pour ça qu'en 3-6, les présentations sont individuelles et on ne peut pas présenter le même matériel à 6 enfants, surtout à 3-4 ans. Leurs fonctions exécutives ne sont pas suffisamment développées, ils vont pas avoir la patience d'attendre et de retenir les gestes, c'est juste impossible en fait.
Oui, et puis en plus presque je dirais que 26 enfants, 26 présentations différentes.
Oui.
Pour un même matériel, visser, dévisser, verser de l'eau, peu importe. Il y a cette notion, effectivement, je me rappelle, les enseignants, les premiers jours, ils se disent, oula, mais comment je vais faire? Ils font des calculs dans leur tête à se dire, oula, attends, il y a tant de matériel, tant de plateaux, j'ai 26 enfants, donc il va falloir que je fasse une multiplication, là, 26 enfants multipliés par tant de plateaux ou tant de matériel. Donc, par jour, je peux en faire du style 10 présentations ou je ne sais plus combien. Donc, enfin voilà, qui font des calculs comme ça. Et quelque chose d'assez mécaniste. Or, en fait, une présentation, pour qu'elle passe, en fait, elle est tout sauf mécanique.
Ouais.
Donc, jusqu'à présent, j'ai parlé de la disponibilité de l'enfant, qui peut ne pas être disponible, mais il y a aussi la disponibilité de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant, s'il est fatigué, s'il a fait déjà 3 fois dans la journée verser de l'eau, et puis que là... pour X raisons, il est fatigué ou il en a marre de faire cette présentation ou je ne sais quoi, mais il vaut mieux qu'il diffère. Il vaut mieux qu'il diffère, même si l'enfant lui demande, ben oui, je te montrerai demain. Donc, il y a vraiment quelque chose, vraiment de la disponibilité et de celui qui donne et de celui qui reçoit,
oui,
qui est important à prendre en compte.
On ne peut pas faire un calcul, tant de présentations par jour, de telle heure à telle heure, non, ça ne marche pas comme ça.
Non, parce que Montessori, c'est vraiment quelque chose qui, bon, bien sûr, nous dépasse, mais en plus, qui vraiment est en lien avec développer le potentiel de l'enfant. Mais le potentiel de l'enfant, il est en lui, quelque part. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de tellement prendre soin de la vie qui se manifeste sous différentes formes dans la classe, et notamment plein de formes qu'on n'a pas prévues. Et concevoir les présentations sous une forme mécanique, il faut que j'en fasse 12 par jour, une toutes les demi-heures, ou je ne sais quoi, ça tue la vie. Ça fait partie, comme l'intervention de l'adulte sur un enfant qui fait pas bien, qui manipule pas bien matériel, c'est des éléments qui tuent la vie. Or, nous, ce qu'on cherche en Montessori, c'est à préserver la vie, et au contraire, à ce qu'elle se déploie, et qu'elle s'ouvre, et qu'elle se manifeste dans toute son ampleur. Et souvent bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
J'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs ce qui vous a le plus marqué en tant que formatrice. Qu'est-ce qui vous a... pourquoi vous aviez envie de vous lever le matin juste avant une formation? Qu'est-ce qui... je crois avoir compris lors de notre échange téléphonique que vous preniez beaucoup de plaisir à former des enseignants. Qu'est-ce qui vous motivait?
La première chose qui me vient, c'est qu'en fait, j'ai reçu moi-même un legs de la part de ma première formatrice, à savoir Jacqueline Lefrançois, qui m'a demandé de continuer. Et ça, c'était un legs presque, je dirais, inconscient, quoi. Presque comme une espèce de mission de vie. Une mission, pas de vie, mais une mission, en tout cas, ouais, de vie. Une partie de vie, ou une mission. Et que j'ai honoré le plus que j'ai pu, le mieux que j'ai pu, et je crois que c'est ça qui me faisait lever. Mais c'était sur un mode inconscient, hein. Je ne me disais pas, je vais faire ça parce qu'il me l'a demandé. Hein. Ce n'était pas du tout ça. Ça a été une espèce de transmutation. J'étais au bord de son lit un jour avant qu'elle décède. Enfin, j'étais près d'elle un jour avant qu'elle décède. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Mmh. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup ça. Puis après, c'était énorme ce qui se passait en stage. C'était énorme en termes de révélation. Ça a changé des personnes. Ça les a changés à l'intérieur.
Et c'est ça que vous aimiez constater, que vous aimiez observer, cette transformation intérieure ?
Non.
Non ?
Non, parce que on la voit pas. Quand on est en stage, on rame. C'est dur en stage. Ah, c'est super dur. Ah, on scoltine toutes les résistances, toutes les peurs des enseignantes. Et au contraire, enfin moi, il y a des fois, j'étais complètement découragée le soir. Je me disais, mais j'arrive pas à transmettre, quoi. Ou je sais pas, ça passe pas, ou elles ont rien compris. Et c'est plutôt après coup. Mmh. C'était les mois après, voire les années après, que des fois, elles me recontactaient, soit elles revenaient en stage, soit j'avais des nouvelles. Enfin bref, et d'un coup, je me disais, oh là là, il s'est passé quelque chose. Mmh. Mais sur le coup, non, on se rend compte de rien. C'est un travail invisible. Et peut-être un peu, là aussi, comme un enseignant face à un enfant. Mmh. Un enseignant, il montre verser de l'eau, et puis l'enfant, après, il met de l'eau de partout, il casse les pichets, le plateau tombe par terre, c'est une catastrophe. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Mmh. Il ne fait rien comme je lui ai montré, à quoi ça sert ce que je fais ? Enfin, si on a cette vision-là, effectivement, on doute de ce qu'on fait, et sans se rendre compte de la portée, finalement, de nos paroles, de nos gestes, et de notre façon d'être. Mmh. Notre façon d'être. Mmh. Ouais.
Mmh. Et avec 700 personnes, 700 stagiaires, 100 stages, vous avez forcément des anecdotes à nous partager par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues en tant que formatrice. Est-ce qu'il y a des expériences particulières que vous aimeriez partager ?
Non, voilà une expérience rigolote, entre guillemets. Mais ça ne va peut-être pas vous faire rire, mais bon... Moi, elle m'amuse, là, comme ça, c'est une expérience amusée. Je proposais aux enseignants, aux stagiaires, de marcher sur la ligne, de découvrir la marche sur la ligne. D'abord, à la fois silencieusement, avec différentes formes de pas, etc. Et puis après, je leur proposais de porter des objets. Et puis, je proposais, au fur et à mesure qu'elles marchaient, des plateaux... Des choses plus défiantes à porter, quoi. Mmh. Et j'avais un plateau super difficile qui s'appelait Versailles, un entonnoir avec plein de bouteilles d'eau, un entonnoir, etc., quoi. Voilà. Et même, voilà, c'est arrivé même à une adulte de faire tomber le plateau et de tout casser, quoi.
Donc, cette enseignante ne râlera pas sur ses élèves le jour où ça arrivera.
Peut-être. En tout cas, ça montre que, voilà, qu'on est faillible, que... Mmh. Il y a plein d'éléments qui peuvent interférer sur la bonne exécution d'une tâche et que l'erreur n'est pas un drame, fait partie des grosses choses à changer. Ouais.
Oui. Et donc là, on a parlé un petit peu de votre expérience de formatrice. On va enchaîner plutôt avec le langage maintenant, le matériel que vous créez, si vous voulez bien en parler de la boutique, tout... Voilà, pour que les auditeurs qui ne vous connaissent pas puissent se rendre compte de tout le travail là, que vous fournissez depuis des années.
Oui. Eh bien, voilà, j'ai commencé, donc j'ai dit en 2003 ou 2004, je ne sais plus, chapeautée par Jacqueline à fabriquer le matériel pour que les enfants apprennent à lire d'une façon naturelle, c'est-à-dire en levant... tous les obstacles qui font que même quand l'enfant a découvert la combinatoire, c'est-à-dire que quand je mets PA et A ensemble, ça fait pas, papa, même si l'enfant a découvert ça, la fusion du mot, ben, il ne peut pas lire boulangerie, il ne peut pas lire épicerie, et puis il ne peut pas lire des tas de mots qui sont dans son environnement. Et Jacqueline avait reçu, alors là c'est pour la vieille histoire, je crois que c'est intéressant, mais avait reçu une liste de mots d'une religieuse de l'école Montessori de Roubaix. Une liste de mots, justement, à l'époque, c'était très non seulement confidentiel, Montessori, mais en plus, il y avait quelque chose, il y avait ça devait rester secret. Il y avait vraiment quelque chose qui ne devait pas être divulgué. Et donc, elle a reçu sous le manteau cette liste de mots. Et je ne sais plus si elle y a travaillé, Jacqueline, sûrement, enfin, on va dire. Parce que de toute façon, elle a fait tellement de choses, elle a fait tellement de matériel pour ses élèves. Elle a pratiqué toute sa vie hein, dans ses différentes classes. Et elle nous a transmis cette liste. Et voilà, moi, je suis partie de ces listes de mots de Jacqueline, enfin, transmises par Jacqueline. Et puis, je les ai modernisées. Il y a des mots qui étaient devenus totalement obsolètes, qui figuraient dans ces listes. Par exemple, attends, je ne sais même plus comment on dit. Cultivateur. Ah oui, tu vois, on ne dit plus cultivateur. On va dire agriculteur, par exemple. Mmh. Cultivateur, ça ne se dit plus trop, quoi. Mmh. Mais il y avait bon, plein de mots quoi, que je ne connais plus.
Et quel matériel vous avez fabriqué à partir de ces listes de mots?
Et donc, j'ai fabriqué... ce qu'on appelle anciennement les dictées muettes, et que j'ai essayé de renommer en termes de mots à écrire pour essayer d'alléger la notion et puis des fausses notions. Alors, si vous voulez que je parle de ça, donc la notion de dictée muette, elle a été initiée par Loubianska de Nanval, qui a été une disciple de Montessori et qui a essayé d'adapter les découvertes de Montessori au langage français. Et très vite, Loubianska de Nanval, elle s'est mise en tête que comme ça, les enfants, ils allaient aussi pouvoir apprendre l'orthographe. Et donc, très vite, c'est ce qui explique la difficulté de certaines listes qui sont présentes ou de certains mots qui sont présents dans les dictées de Loubianska de Nanval. Elle s'est dit, c'est pas grave, comme ça, l'enfant, il apprendra l'orthographe en même temps. Or, l'idée n'est absolument pas que l'enfant apprenne l'orthographe, mais l'idée de ces mots à écrire, c'est que l'enfant est à disposition des mots qu'il peut écrire de façon certaine, effectivement sans erreur orthographique. J'ai perdu mon idée. Sans difficulté orthographique et sans difficulté non plus qu'il ne puisse se résoudre par lui-même. C'est très clair, j'ai dit là.
Si.
En tout cas, voilà, dans les listes de mots déjà que m'avait transmis Jacqueline et auxquelles j'ai mis un point d'honneur à respecter, il n'y a absolument pas la volonté que l'enfant apprenne l'orthographe. Mmh. Donc, par exemple, il n'y a pas le mot qu'on trouve chez Loubianska de Nanval comme cosmonaute. Mmh. Il y a deux sortes de O dans cosmonaute. L'enfant, clairement, ne peut pas deviner qu'il y a deux sortes de O. Donc, on est obligé de le corriger. Or, sur les apprentissages, dès qu'on rentre dans les apprentissages fondamentaux, le poids de l'adulte devient problématique, en tout cas un réel défi, devient de plus en plus pesant sur les épaules de l'enfant. Et plus nous, on va offrir des pistes de poids pour les adultes, plus qu'ils, même s'ils sont bien intentionnés, ils auront tendance à peser sur l'enfant. Et je pense que c'est même d'ailleurs une des choses qui a fait que de façon... officielle, l'AMF maintenant, s'est mis en porte-à-faux par rapport à cette notion de dictée muette. Parce que je pense qu'effectivement, il y avait des situations quasiment de harcèlement, j'exagère un peu, par rapport à cela. Il fallait que l'enfant écrive ses mots, d'une part, et d'autre part, dans ses mots, il y avait des difficultés. Des difficultés que l'enfant ne pouvait pas franchir par lui-même. Donc non seulement il fait quelque chose de difficile, mais en plus, il fallait que l'enseignant pointe et montre qu'il n'y arrivait pas en montrant ses erreurs. Mmh. Donc, ça fait deux angles d'approche qui rendent ces dictées muettes d'un abord difficile à soutenir pour les enfants. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est clair. Donc, vous, votre objectif, c'était...
Il y a un hélicoptère qui passe. Pardon.
Ah non. Ah, on ne l'entend pas, donc tout va bien.
Vous... Ah d'accord, pardon.
Non. En fait, votre objectif, c'était d'éviter les mots comme cosmonaute au départ pour ne pas mettre l'enfant en difficulté avec le AU et lui proposer que des mots qu'il allait pouvoir écrire par lui-même. C'est bien ça.
C'est pas tout à fait que... Là, dans un cosmonaute, il y a deux sortes de O.
Oui.
Donc l'enfant, il entend deux sortes de
voilà.
O.
Voilà, s'il connaît que le O.
Il doit savoir.
Ouais.
Ouais. Donc jamais je ne propose à l'enfant, même quand il apprend le AU,
ah oui.
À un moment donné il l'apprend, jamais je ne propose cosmonaute. Parce que jamais l'enfant ne peut inventer qu'il y a deux sortes de O dans cosmonaute.
D'accord. Et quand vous dites jamais, moi j'imaginais pas au début en tout cas. Mais du coup, ce genre de mots où on entend le même son mais ça s'écrit différemment, à quel moment vous le proposiez? Plus tard ou pas du tout?
Ah non, moi je ne le proposais pas du tout. Pour moi, là, effectivement, c'est de l'apprentissage d'orthographe. Donc là, on est dans l'orthographe d'usage. Et effectivement, l'orthographe d'usage, ça se travaille, il n'y a pas de souci. Mais ça se travaille une fois qu'on est lecteur,
Ah
une
oui,
fois
et
qu'on
là,
est aguerri.
d'accord, et votre matériel
Toujours.
concernait que les 3-6, c'est ça que j'avais pas compris.
Bien, il est utilisé aussi en CP-CE1, mais
D'accord.
pour l'apprentissage de la lecture.
D'accord, donc comme vous travaillez l'apprentissage de la lecture et pas l'orthographe, vous évitiez les difficultés comme cosmonaute, j'ai compris.
Voilà. Et mon matériel peut aussi servir à l'apprentissage de l'orthographe. Parce qu'après l'affaire, j'ai tellement isolé les difficultés que si on veut travailler sur le phonème, le graphème, pardon, AU, eh bien, la liste de mots que je propose ne propose que ça comme difficulté. Donc l'enfant va pouvoir s'exercer à écrire un certain nombre de mots qui comportent le AU.
D'accord.
Et l'orthographe d'usage qui mêle les différentes graphies d'un phonème, ça c'est une étape encore après.
Oui, je pense que comment dire, pas l'efficacité, mais si la pertinence de votre matériel, justement, est d'abord isoler les difficultés.
Ah oui, là il y a et aucune lettre muette. Là aussi, ça fait partie des originalités qui ne sont pas reprises maintenant, enfin qui n'ont pas été. Parce que justement, le français, c'est un vrai défi hein, pour trouver des mots sans lettre muette et sans phonème ou graphème complexe, ou alors un seul phonème que je veux étudier ou un seul graphème que je veux étudier. Ben, effectivement, voilà, c'est des années de travail pour arriver à ça.
Oui, donc depuis 2003, ça fait quoi, 17 ans, vous avez fabriqué du matériel sur l'ordi directement. Et donc là, aujourd'hui, ou dans quelques jours, hein, j'ai vu l'info sur Facebook, vous allez ouvrir une boutique en ligne, c'est bien ça?
Voilà, j'ouvre une boutique en ligne parce que bah, pour continuer à diffuser ce matériel, c'est une démarche difficile pour moi. Jusqu'à présent, j'avais donc un catalogue en PDF. Et puis c'est tellement ça correspond tellement plus aux usages moderne que de consulter un catalogue en PDF, remplir un fichier Excel, tout ça, c'est tellement lourd, les gens, ils ont tellement l'habitude de remplir des paniers que voilà, il a fallu mettre beaucoup d'énergie. Elle sort demain, cette boutique, c'est un travail encore conséquent. Eh bien, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est pour le rendre plus accessible, c'est ça le but.
Oui, bah, le jour de la publication de cet épisode, donc c'est dans 4-5 semaines, du coup j'ai 4-5 semaines d'épi 4-5 épisodes d'avance, du coup la boutique sera déjà en ligne.
Elle sera déjà en ligne,
Oui.
là.
Et il me semble que vous n'avez pas fabriqué seulement, enfin que du matériel de langage. Vous avez aussi exploré les mathématiques, la géométrie, j'ai vu plein d'autres choses dans le catalogue en PDF.
Ah oui, mais en fait, en Montessori, on appelle langage tout ce qui est conceptuel, en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc.
Quand vous dites langage, les cartes de nomenclature de géométrie, vous appelez ça langage quand
Ah oui, complètement,
même?
oui.
D'accord.
Complètement. Et oui, parce que c'est d'abord du concept, c'est d'abord des phrases qu'on lit, qu'on réussit ou pas à comprendre, la géographie, c'est d'abord du concept, oui.
D'accord. Donc oui, du coup, vous avez fabriqué beaucoup, beaucoup de matériel. Voilà. Pas que
Oui,
l'écriture, pas que langage, écriture,
ah oui,
lecture.
je n'ai pas compris. Oh, pétard. Ça me fait penser qu'effectivement, j'ai appelé la boutique ben, Langage Montessori parce que quand on est. Voilà, pour moi, c'était une évidence que la géométrie, c'était du langage. La zoologie, c'est du langage. La botanique, c'est du langage, oui. C'est pour ça qu'on est autant transversal en Montessori. Et que même si on fait de la géométrie, ben, on travaille le langage, quoi. C'est pour ça que cette notion de transversalité est si simple en Montessori, oui.
Et le matériel que vous allez proposer sur votre boutique, du coup, ce n'est pas que pour les 3, s'il y a du matériel pour les 6, 12 aussi, j'avais vu, hein, oui.
Tout à fait, oui. Oui, ben notamment les nomenclatures de botanique, de géométrie, du matériel de grammaire, de conjugaison, voilà.
D'accord.
Et puis même mon matériel de lecture, c'est vrai qu'il sert régulièrement aussi pour les enfants, je dirais, niveau CP-CE, que ce soit en école publique ou en école Montessori. Comme il
D'accord.
est très systématique, il est très ciblé, et puis voilà, l'enfant, il a le choix. Donc il peut prendre n'importe quelle poche, quand je dis n'importe. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une gradation. Voilà. Il va travailler une difficulté en particulier. Voilà, il n'est pas obligé de faire toute la série, surtout s'il est déjà avancé et qu'il est déjà débrouillé. Mmh. Il y a peut-être juste quelques points à revoir. Donc, il y a cette possibilité aussi de, donc, d'isoler la, sur quoi il va travailler.
Mmh, mmh. D'accord. Et bien, si vous voulez bien, Agnès, on va terminer avec une citation, un livre, et soit un coup de cœur, soit un coup de gueule. Alors, la citation, peut-être, pour commencer ?
Alors, la citation, pour moi, c'est... Elle était présente sur le site de formation, elle est toujours d'ailleurs. L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration au coureur. Aussi indispensable. Cette notion, pour moi, qui rejoint complètement cette notion de motivation intrinsèque, c'est essentiel, voilà. Mm-mm. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration au coureur. Ça dit, hein, c'est oui, fort.
C'est fort.
Donc, quand je parlais de cultiver la vie dans la classe, c'est cultiver la joie, hein, en fait. Mm. Mm.
Et est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez partager ? Ça va être difficile de trouver un livre qui n'a pas été cité, hein, parce que...
Exactement. Donc, je vais absolument pas être novatrice. Moi, je vais plutôt dire pour d'éventuelles personnes qui ne connaîtraient pas bien la pédagogie Montessori comme initiation, voilà, de lire L'Enfant de Maria Montessori. Mmh. Parce qu'il peut se lire dans n'importe quel sens. On peut prendre à peu près n'importe quel chapitre. Et je trouve qu'il permet déjà de commencer à changer son regard sur l'enfant. Voilà. Il permet d'introduire à cela d'une façon assez désuète et légère. Voilà, c'est pas un livre prise de tête. Je lis un chapitre, je m'en vais. J'en lis un autre, n'importe lequel, qui m'attire par thème. Et en même temps, voilà. On commence à aborder... la nature de l'enfant, ce citoyen ignoré du monde, comme disait Maria Montessori.
Et on va terminer avec soit un coup de cœur, soit un coup de gueule, en lien avec notre sujet, bien sûr.
Oh ben, mon coup de cœur, c'est pour les enseignants, quoi, qui relèvent les manches et qui, voilà, malgré tous les obstacles, tant extérieurs, donc on a un peu cité, hein, bon, surtout collègues, les matériels, mairie, inspecteurs, mais on ne voit pas souvent, que intérieur, ça demande effectivement de, voilà, de franchir des zones d'inconfort, et c'est jamais facile d'aller au-delà de son confort, c'est clair. Voilà, et puis des enseignants qui acceptent d'aller se former, la plupart du temps sur leur temps de vacances, la plupart du temps sur leur denier personnel, voire qui investissent du matériel sur leur denier personnel aussi. Ben voilà, chapeau bas, quoi. Alors que c'est une profession qui est extrêmement malmenée médiatiquement et culturellement, je dirais. L'enseignant n'a plus du tout la place... Le respect de la part des familles dont il bénéficiait, l'aura dont il bénéficiait auparavant, c'était un personnage avant l'instituteur, maintenant c'est plus du tout ça. Et voilà, ces enseignants qui malgré tout ont tellement à cœur à la fois que leur métier ait du sens, à la fois que leur métier corresponde à leurs valeurs, et puis que de correspondre aux besoins des enfants, aux besoins qu'ils voient, et ils voient tout à fait l'inadéquation parfois de leurs propositions avec la réalité des enfants, et c'est une grande souffrance.
D'accord, et ben, merci beaucoup Agnès pour aujourd'hui, pour cet épisode.
Et ben, merci à vous d'avoir fait parler.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !